Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast Comédie Musicale. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, nous vous invitons à le faire, puisqu'il permet d'introduire plusieurs réflexions sur le genre afin de mieux comprendre ce qu'est une comédie musicale. Si jamais vous préférez commencer par cet épisode, quelques éléments pour comprendre son contexte de création sont nécessaires. Il a été réalisé dans le cadre du festival Transversal qui se tient usuellement fin novembre et qui met en lien la littérature, le cinéma et d'autres arts. Ce podcast est présenté par les étudiantes du Master de littérature générale et comparée de l'Université de Rennes 2. Alors qu'une table ronde aurait dû se tenir lors du festival Transversal, les événements liés au contexte sanitaire en ont décidé autrement, ce qui nous a permis de vous proposer le documentaire sonore que vous vous apprêtez à écouter. Afin de réfléchir à cette thématique de la comédie musicale, nous avons mis à contribution trois invités. Ente Bin, journaliste et critique, commissaire de l'exposition Comédie musicale La joie de vivre du cinéma. Anna Marmiès, journaliste, créatrice du podcast All That Jazz et scénariste-réalisatrice de Lorraine ne sait pas chanter. Et enfin Pierre-Olivier Toulza, spécialiste du cinéma d'Hollywood et maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Paris. Grâce à une série d'entretiens qu'ils nous ont aimablement accordés, mais aussi grâce aux capsules sonores proposées par les étudiantes sur le sujet, nous vous invitons dans ce deuxième épisode à élargir nos réflexions sur la comédie musicale. Nous souhaitons plus particulièrement vous faire partager le point de vue de nos invités sur ce genre et aussi trouver des échos de la comédie musicale dans d'autres pratiques telles que la littérature. Bonne écoute!
Est-ce qu'il y a un pays de production qui vous attire plus qu'un autre?
Anna Marmiès.
Le truc, c'est que la comédie musicale, c'est tellement un art américain, même si j'adore évidemment Jacques Demy, je l'ai dit 80 fois depuis le début, ou Bollywood, ou des choses comme ça, et même si l'Angleterre, notamment pour ce qui est des comédies musicales sur scène, est très créative, bon, ça reste quand même un art qui est profondément américain, quoi. Donc, évidemment, quand je pense à la comédie musicale, ben, je pense aux États-Unis, je pense à Hollywood, je pense à Broadway. Donc, si je devais garder les productions d'un seul pays, si vous me demandez de choisir, bon, mais malgré tout, je choisirais quand même les États-Unis.
Ente Bin.
Le cinéma indien, au départ, un peu comme le cinéma américain, découvre qu'on peut améliorer le spectacle cinématographique parlant. Quand on dit parlant, on sous-entend éventuellement bavardage et statisme, mais qu'on peut l'améliorer avec plus de spectacles en y insérant des scènes chantées et dansées. Ce chant et cette danse a un genre particulier qu'est la comédie musicale. En Inde, ça va être différent, c'est-à-dire que le chant et la danse vont contaminer, vont envahir tous les autres genres. Je parle du cinéma indien populaire, hein, les films notamment, l'industrie concentrée à Bombay qui a donné Bollywood. Eh bien, ce qui est caractéristique dans tout le cinéma indien, depuis qu'il s'est mis à parler, c'est-à-dire depuis en gros le milieu des années 30, c'est que tous les films indiens populaires contiennent du chant et de la danse. Mais ça a pris de telles proportions que les codes du cinéma indien font que le public accepte beaucoup plus facilement le passage, comme ça, de but en blanc, d'une partie dialoguée à une partie musicale. Du temps de la colonisation anglaise, il y avait même une raison de censure à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était chanté et dansé, on pouvait faire passer beaucoup plus de choses, notamment au plan sexuel, des choses interdites à l'écran, que dans un film dramatique. Donc, à la fois les contraintes, puis l'attrait du public, puis cette divinisation des stars en Inde, y compris des stars qui chantaient, qui doublaient les stars de cinéma qu'on voyait à l'écran, c'était jamais les mêmes. Celles qu'on voit ne sont pas celles qu'on entend. À Hollywood, on cache que les stars sont doublées pour les chants quand elles n'ont pas la voix adéquate. C'est ce que raconte un film comme Chantons sous la pluie. Mais en Inde, au contraire, les chanteurs sont divinisés. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'équivalent des Oscars en Inde, il y a l'Oscar de la meilleure chanteuse et du meilleur chanteur de post-synchronisation. C'est-à-dire que on va au cinéma aussi pour entendre les voix des idoles de la chanson. Donc, vous voyez comment deux industries cinématographiques très différentes, avec chacune en tête les demandes culturelles de leur public, ont évolué et ont abouti à des genres qui se ressemblent, qui sont un peu de la comédie musicale, mais qui sont totalement différents dans leur forme. Et ce que j'ai dit sur le cinéma indien peut se décliner de manière plus allégée dans presque tous les pays qui ont une industrie cinématographique abondante. Dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Égypte, au Japon, enfin en URSS, puis en Russie, dans presque tous les pays d'Europe, il y a eu des traditions de spectacle musical qui ont donné, dans chacun de ces pays, une tradition de films musicaux qu'on pourrait appeler de comédie musicale.
En France, les comédies musicales les plus connues, elles ont souvent un thème historique ou elles sont empruntées à des œuvres littéraires majeures comme Le Roi Soleil ou Notre-Dame de Paris. Alors qu'aux États-Unis, les sujets, ils ont l'air beaucoup plus vastes. Vous avez cité tout à l'heure Hamilton et Wicked, mais qui sont donc pas forcément que des personnages historiques. Il y a aussi la comédie musicale Heathers, qui est inspirée d'un film de comédie noire, ou le Rocky Horror Picture Show, qui est inspiré d'un midnight movie kitsch et culte. Est-ce qu'il s'agit, du côté de la production française, d'une tentative de légitimer le genre en utilisant des sources, qu'ils soient littéraires ou historiques, alors qu'aux États-Unis, comme le genre est beaucoup plus démocratisé déjà, ils ont moins ce problème de légitimation de l'art? Ou est-ce qu'il s'agit simplement du genre de comédie musicale qui correspond à l'horizon d'attente des publics français?
Pierre-Olivier Toulza.
J'imagine que si les films sont produits, ils doivent en effet correspondre à un certain horizon d'attente, à une attente des spectateurs. Cela étant, la différence peut-être majeure qui m'apparaît, c'est que en France, aujourd'hui du moins, les films musicaux, les comédies musicales sont souvent plutôt des films d'auteur, c'est-à-dire presque davantage des films que l'on pourrait caractériser par leur appartenance à l'œuvre d'un auteur, si on pense à Jacques Demy, mais c'est déjà un peu ancien évidemment, ou à Christophe Honoré qui a fait aussi une série de films musicaux. Je pense qu'on aura plutôt tendance à les rattacher à la tradition du film d'auteur à la française qu'à une tradition générique de comédie musicale ou de film musical. Voilà. Mais cela étant, je pense qu'on ne peut pas trop faire de généralité sur des cinématographies aussi vastes et aussi complexes que les cinématographies françaises et américaines, puisque les films que vous citiez, qui étaient, je crois, Wicked et Hamilton, sont justement des films qui sont soit des adaptations littéraires, soit des comédies musicales portant justement sur des personnages historiques. Donc voilà, les choses sont évidemment complexes.
On avait une question sur les réalisateurs et sur la légitimité, parce que j'avais noté dans votre podcast autour de Sweeney Todd, je ne sais plus exactement pour quelle version de Sweeney Todd, mais vous aviez parlé d'une sorte de légitimité quant au réalisateur qui allait produire ce Sweeney Todd. Et en fait, ça m'a interpellée et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui sont plus légitimes ou perçus plus légitimes dans la production de comédie musicale que d'autres?
Je ne sais pas. En fait, comme c'est plus comme à l'époque de l'âge d'or hollywoodien, il n'y a plus de réalisateurs spécialisés en comédie musicale, à part peut-être Rob Marshall, qui travaille maintenant pour Disney, qui avait fait Chicago à l'époque, ensuite qui a fait Nine, et qui a fait Into the Woods, qui va faire La Petite Sirène, le remake, etc. Je ne sais pas s'il y a vraiment une question de légitimité ou d'illégitimité. Je pense que c'est plutôt un regard personnel de la part des réalisateurs. Si je pense à mon expérience personnelle, moi, je me sentais une forme de légitimité dans le sens où j'étais... je connais très bien le genre de la comédie musicale. C'est une de mes passions. J'en connais je sais pas combien. Enfin, je sentais que je faisais partie des gens qui pouvaient se permettre. Par contre, la comédie musicale, c'est un... En termes de mise en scène, c'est un art particulier. C'est-à-dire qu'il y a... Il faut mettre en scène la danse, le chant, comment ça marche. Il y a toute une réflexion à avoir. Et ça complexifie clairement la manière d'appréhender la mise en scène.
Puisque le Festival Transversal met en lien la littérature et la chanson, en fait, je me demandais pourquoi est-ce que les créateurs de comédie musicale ont ce besoin souvent d'avoir une référence littéraire, puisque souvent ils adaptent des chefs-d'œuvre littéraires. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de West Side Story, qui est une adaptation de Shakespeare. On peut aussi penser aux contes dans les Disney, par exemple, ou même dans Peau d'âne de Jacques Demy. Comment s'explique ce besoin d'adapter la littérature en comédie musicale ?
tout simplement, mais ça c'est une question qui en fait regroupe le cinéma de fiction en général. C'est-à-dire que les producteurs, mais aussi les scénaristes, mais aussi les réalisateurs, cherchent les bons sujets. Or, s'ils choisissent de s'exprimer dans un certain genre, ils vont essayer de trouver un bon sujet pour servir ce genre. Or, c'est compliqué de trouver un bon sujet pour la comédie musicale, encore plus qu'un bon sujet pour un opéra. Encore une fois, parce que dans un opéra, n'importe quel sujet peut se prêter à la parole qu'on transformera en chant du début à la fin du récit. Or, pas n'importe quel sujet, à mon avis, peut se prêter à une alternance entre des parties dramatiques ou des parties dialoguées et des parties chantées et dansées. C'est un peu par paresse ou c'est un peu par parfois désespoir de cause qu'on peut éventuellement s'adresser à des sources ou à des œuvres préexistantes. Dans la panoplie d'histoires qui ont été inventées par les auteurs de théâtre ou de littérature depuis la nuit des temps, on va se dire, tiens, ben, tel récit, telle histoire, tel personnage se prête très bien à un traitement par comédie musicale, puisqu'il y a une exacerbation des sentiments, il y a une possibilité de s'évader de la réalité par l'onirisme. On a un potentiel de transcrire la réalité différemment dans telle ou telle histoire. Alors évidemment, dans les contes de fées, même quand on voit les films, si vous regardez Le Magicien d'Oz, l'héroïne du Magicien d'Oz, elle est dans un univers qui est monochrome, où personne ne chante et personne ne danse, sauf elle, quand elle exprime justement sa frustration. Et puis, tout d'un coup, elle va rêver d'un monde qui est différent, qui est en technicolore, et où on peut chanter et danser. Et donc, la structure du conte de fées se prête très bien à la comédie musicale, de même que la structure de certaines grandes pièces classiques qui font d'ailleurs très souvent appel à du surnaturel. Dans une tragédie, par exemple, comme Roméo et Juliette, qui a inspiré West Side Story, disons que c'est une tragédie qui ne fait pas appel directement aux forces surnaturelles, mais dans laquelle la notion de destin, qui est d'ailleurs reprise du théâtre antique grec, est suffisamment forte pour dicter aux personnages des comportements qui sont un peu différents de ceux de la vie quotidienne de tous les jours.
Est-ce que la comédie musicale, en règle générale, comme c'est un genre très important dans la culture populaire américaine, c'est un genre particulièrement politisé, ou est-ce que c'est un phénomène, ou plutôt une sorte d'épiphénomène qui aurait surtout lieu sur les réseaux sociaux ?
C'est pas seulement un genre populaire, c'est-à-dire c'est aussi un genre, et c'est l'un de ses intérêts, qui s'est mêlé les références et les formes en fait, artistiques populaires et sophistiquées, plus complexes, artistes. Je vous en donne un exemple. Dans West Side Story, par exemple, au cinéma comme au théâtre, on a des formes musicales qui sont extrêmement complexes avec la musique de Bernstein. Et à côté de cela, on peut avoir des références beaucoup plus populaires. Voilà. Bon, je vous parlais tout à l'heure de cet artiste dont j'ai oublié le nom, qui se livre à des performances satiriques. À mon sens, c'est quelque chose qui a souvent été le cas dans l'histoire de la comédie musicale. C'est-à-dire que c'est un genre qui, au théâtre, comme au cinéma, comme à la télévision, à la fois est un genre de pur divertissement, heureusement, c'est souvent ce qui nous intéresse au premier chef, mais qui s'est quand même montré vraiment capable de littéralement en fait, prendre en charge ces aspects de critique sociale ou de remise en question de certaines normes en fait, culturelles, des normes en matière de genre, gender, des normes raciales, ethniques, culturelles. Voilà.
En quoi écrire sur la comédie musicale peut varier par rapport à l'écriture sur le cinéma en général, et notamment du fait de la codification très particulière de la comédie musicale. Est-ce que ça change votre façon d'aborder l'écriture critique? Est-ce que ça modifie un peu votre écrit, ou est-ce que vous changez aussi votre façon d'écrire en fonction de ce genre, parce que vous savez que vous vous adressez peut-être à un autre public?
Non, moi, j'écris comme j'écris. Je ne modifie pas mon style d'écriture critique en fonction de l'objet que j'analyse. Même si parfois, enfin, ma fierté, c'est que ma critique ressemble un petit peu au film dont je parle. Enfin, globalement, je ne peux pas dire que j'écris différemment sur une comédie musicale que sur un western, une comédie ou un film de guerre. Ça me donne parfois un peu des complexes parce que je ne suis pas musicien. Donc, la partie, je dirais, musicologique d'analyse d'une comédie musicale, je ne peux pas la faire. Quand j'analyse l'esthétique, les formes d'une comédie musicale, c'est vrai que ça me restreint un peu de ne pas avoir de vocabulaire ou de connaissances techniques suffisantes pour analyser la partie musicale. Raison de plus pour parler des comédies musicales avec le même style, avec les mêmes outils critiques que n'importe quel autre film.
Vous parliez des cinéastes de la Nouvelle Vague tout à l'heure.
Oui.
Vous avez, vous-même, si je ne m'abuse, participé à la Revue Positif.
Toujours, d'ailleurs.
Je me demandais comment votre travail d'écriture a pu éventuellement enrichir votre approche de ce genre cinématographique. Est-ce que, dans ce sens, vous pourriez revenir sur vos collaborations au sein de la revue, et la manière dont la critique aussi peut apporter matière à réflexion autour de la comédie musicale?
Alors, pour ce qui est de la Revue Positive, c'est vrai que la Revue Positive, à laquelle je collabore depuis très longtemps, fait partie historiquement des revues qui sont nées après la guerre, enfin dans les années 50, puis après, il y en a eu d'autres dans les années 60, qui sont nées de la cinéphilie d'après-guerre et de, disons, l'émergence des ciné-clubs. Et toutes ces revues de cinéma avaient pour point commun l'intérêt pour les genres du cinéma hollywoodien. Même parfois, aux dépens du cinéma français considéré comme plus académique ou plus classique ou plus littéraire. Donc, il y avait une sorte, paradoxalement, de liberté dans le cinéma hollywoodien qui était revendiquée ou qui était désirée par ces générations de cinéphiles ou de cinéastes. Donc, il se trouve que la Revue Positive, qui est née en fait du mouvement surréaliste, émet dans le genre de la comédie musicale le recours à l'imaginaire, c'est-à-dire l'amour fou, le rêve, l'association d'idées, la folie, même formelle, et le refus du naturalisme. C'était des choses qui font partie des présupposés de la comédie musicale, qui étaient mises en avant dans l'amour du cinéma par la Revue Positive, depuis les débuts. Donc, c'est autour de ce mouvement critique, en fait, que s'est construit mon parcours à moi, puisque j'ai intégré cette revue. Donc, je fais partie de son passé, de son histoire, pour ce désir de décrypter ou de déchiffrer les qualités, d'analyser de façon critique les caractéristiques de ce genre qu'est la comédie musicale. Et c'est à travers, non seulement des discussions avec mes collègues, mais aussi ma propre réflexion lorsque j'ai eu des articles à écrire sur ce genre, qui était bien entendu aussi nourri par les livres qui... Il y a une littérature abondante sur la comédie musicale qui existe depuis les années 60, notamment sur les cinéastes, les grands cinéastes de la comédie musicale, comme Minnelli ou Stanley Donen, ou Gene Kelly, ou Busby Berkeley. Voilà, donc... Mon activité critique a évidemment été nourrie par à la fois mes lectures et par le fait de côtoyer des gens qui aimaient ce cinéma.
On s'était posé une petite question au sujet du podcast. On voulait savoir pourquoi avoir choisi ce format-là, de format audio, plutôt qu'un format vidéo, par exemple comme une plateforme sur YouTube où il y aurait le... rapport visuel avec les films, où vous pourriez présenter par exemple des extraits, des bandes-annonces, des photos.
Alors, la réponse va peut-être vous décevoir, mais c'est que faire une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus chronophage. Voilà, il faut se filmer, il faut avoir du bon, des bons équipements, il faut voilà, faire du montage vidéo, etc. Et le podcast, ça me semblait une forme plus simple à faire pour moi, voilà, techniquement parlant. Mais aussi, moi, je visionne beaucoup de vidéos YouTube, mais je suis aussi énormément voilà, branchée sur des podcasts. Et j'aime beaucoup cette forme-là, le côté on peut l'écouter en marchant dehors, dans les transports, etc. Donc, pour moi, ça semblait un format voilà, qui correspondait bien à ce que je voulais faire. Je voulais que ça reste relativement modeste et relativement simple. Après, c'est, du coup, comme effectivement la comédie musicale, c'est malgré tout un support qui est audio évidemment, mais aussi visuel. Voilà, j'aime bien sur le site internet du podcast rajouter des éléments supplémentaires visuels, mettre des liens vers des vidéos, etc., pour qu'on puisse apprécier le côté visuel. Ça nous a notamment frappé quand on a fait l'épisode sur les films de Busby Berkeley, qui sont vraiment des films où la manière dont c'est filmé, enfin, c'est extrêmement important et c'est hyper visuel. Donc, quand on décrivait dans le podcast, il y avait un côté un peu laborieux. Et du coup, on a fait tout un article sur notre site en mettant justement les références visuelles pour bien que les auditeurs comprennent. Donc voilà, faut avoir peut-être un petit complément visuel à côté pour que ça soit parfait.
Est-ce que les critiques sur les comédies musicales auxquelles vous vous intéressez vont abreuver la réflexion que vous pouvez avoir sur les œuvres, ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de vous détacher un peu de ce qui peut être produit à ce niveau-là pour analyser les films auxquels vous vous intéressez?
Oui, je pense que vous avez raison et que la critique, c'est l'une des sources que l'on a à notre disposition pour s'intéresser en particulier à la réception des films dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est loin d'être la source unique pour analyser, pour étudier la production d'un studio spécifique qui est la Fox, la 20th Century Fox. Je me suis moins attaché en fait aux critiques de l'époque, même si donc il y a des choses très intéressantes, notamment dans la presse professionnelle, dans les critiques parues dans la presse professionnelle. Donc je me suis plutôt attaché au discours provenant des producteurs du studio sur ces films-là. Parce qu'il se trouve qu'on peut avoir accès à ces archives-là, à ces sources-là, et que ce sont des discours qui sont parfois très éclairants sur les films. Voilà. Alors, sauf que très souvent, le plus facile, c'est en effet d'aller retrouver quelques critiques qui sont parues à l'époque de la sortie des films, soit aux États-Unis, soit en France. Alors, c'est une source primaire intéressante, mais voilà, il faut quand même être conscient que c'est forcément assez limité, c'est-à-dire que l'avis des critiques n'est pas non plus l'avis des spectateurs à la sortie du film, donc il y a voilà, d'autres sources à prendre en compte. En particulier pour les films classiques, parfois on arrive à trouver, avoir accès un tout petit peu à l'avis, à l'opinion des spectateurs plus ordinaires, c'est-à-dire pas seulement des journalistes de cinéma, des journalistes spécialisés, puisque les studios en fait, de cinéma effectuaient des projections test de leurs films avant de les distribuer, de les exploiter. Et donc, dans ces projections test, ils demandaient aux spectateurs de remplir des petites fiches avec des questions voilà, très précises sur les films pour avoir leur avis. Donc, c'est une source vraiment intéressante et que conservent certains centres d'archives aux États-Unis. Donc, ça permet, si on a la possibilité d'y avoir accès, de compléter justement les critiques de la presse.
La comédie musicale est un genre spectaculaire et théâtral dont les codes doivent varier des autres productions cinématographiques et théâtrales. Donc, comment est-ce que cela affecte votre recherche sur ce sujet, la frontière entre les œuvres cinématographiques et les œuvres de ce genre particulier qu'est la comédie musicale?
Alors, bon, ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer d'analyser, d'étudier précisément les formes spectaculaires qui sont celles de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'à côté des séquences narratives, on a évidemment des numéros musicaux qui font tout l'intérêt de ces films pour les spectateurs la plupart du temps. Hein, donc on va rarement voir ces films pour les récits qui sont souvent assez stéréotypés, parfois un peu creux, alors même que dans les numéros musicaux spectaculaires et qui font preuve parfois d'une certaine théâtralité, là on a toute une richesse, une variété qui fait tout le sel de ces films. Donc moi, ce qui m'intéresse, moi, je suis loin d'être le seul, hein, donc c'est d'essayer de décrypter ou de retracer les origines, en fait, des formes spectaculaires qu'on trouve dans ces numéros, c'est-à-dire de ces moments qui semblent un peu arrêter les récits pour nous proposer des petits moments de spectacle, des petits moments, des grands moments, parfois de longs moments de spectacle.
Non, moi, j'avais juste une autre question sur le rapport à l'objet aussi en tant que chercheur et personne pas particulièrement fan de comédie musicale non plus. Je me demandais si vous aviez peut-être, ça peut relever de l'anecdote aussi, mais des choses à nous dire sur les éventuelles polémiques auxquelles vous auriez été confronté ou débat avec des collègues sur justement cet objet de recherche-là. Est-ce que vous auriez un témoignage à partager avec nous là-dessus? Parce que les étudiantes le savent, on a beaucoup discuté de ça sur la chanson, vu que c'est la thématique aussi plus large et que moi je travaille sur la chanson comme objet de recherche. Ça fait partie, en fait, une des premières question auxquelles je dois me confronter en tant que chercheuse, c'est aussi la défense quand même de la légitimité de l'objet, la discussion, enfin justement la question entre la discussion, la nuance, l'échange constructif et la défense de l'objet. C'est assez difficile de pas non plus être dans une posture militante. Enfin bon, ma question c'est un peu, j'ai un peu dérapé, mais voilà, ça m'intéressait de savoir, d'avoir votre avis aussi très personnellement face à ce genre de situation.
C'est une question qui est compliquée en réalité, parce que bon, tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas vraiment de problèmes de légitimation, de légitimité de l'objet, ce qui est peut-être un mécanisme de défense un petit peu de ma part, dans la mesure où, bon, j'ai pas d'anecdote très précise, mais ce serait plusieurs anecdotes en fait, où voilà, plusieurs personnes ou collègues peuvent avoir le sentiment que en s'intéressant à ce type de genre, on se fait nécessairement plaisir, c'est-à-dire comme si c'était des objets qui nécessairement renvoyaient à nos goûts personnels, à mes goûts personnels. Et en l'occurrence, bon, c'est parfois vrai hein, pour certains films, bien sûr, mais c'est, à mon sens, absolument pas le sujet. Donc ça reste vraiment un objet de travail scientifique, sérieux, en dépit de la présence de chansons, de musique, de danse, qu'il est parfois ennuyeux hein, d'étudier, quand on revoit un film à de très nombreuses reprises, quand on est plongé dans l'analyse d'une séquence, dans l'étude de documents d'archives. Hein, voilà. Donc à mon sens, bon, la question du plaisir ou de la joie supposée qu'on pourrait éprouver face à cet objet n'est absolument pas essentielle. Et pourtant, on nous renvoie assez souvent à ce type de questions. Voilà, ce qui manque, il y a quand même encore du travail à faire nécessairement par rapport à ce type d'objet. Ouais.
Vous avez parlé du coup de projets collectifs. Est-ce que ce sont des projets collectifs plutôt en France ou est-ce que c'est plutôt des projets internationaux? Et est-ce que vous avez peut-être un des projets plus précisément à nous présenter dans lequel vous auriez trouvé vous nous avez dit que ça avait été passionnant et épanouissant. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus, ce serait super. Je vous remercie.
Alors, pour répondre à votre question, donc il y a environ 5 ans, 5 ou 6 ans à peu près, J'ai monté un projet avec une collègue de l'université, donc à l'époque de l'université Paris-Nanterre. Et donc, on a souhaité tous les deux lancer un projet collectif autour de la comédie musicale qu'on a appelée musical MC2. C'est-à-dire, c'est le musical hollywoodien en contexte culturel et il me manque un adjectif, en contexte médiatique et culturel. Voilà. Donc ça faisait MC2 à peu près. Et donc l'idée, c'était de s'intéresser à la comédie musicale moins à partir d'approches auteuristes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de se lancer dans la énième étude des films de Minelli, par exemple, avec donc des approches qui avaient déjà été menées très bien en France, mais plutôt de s'intéresser à la comédie musicale en tant que un genre qui permettait de croiser en fait les formes artistiques et médiatiques et de placer le cinéma au cœur de cette circulation en fait. Et donc ce projet nous a amené à entrer en contact avec des collègues français, bien sûr, et aussi américains et britanniques. Donc, on a rencontré à quelques reprises qui sont venus en France. Donc, voilà, c'est de ce projet dont je parlais, c'est le projet que j'évoquais et qui m'a vraiment permis, en fait, au contact justement de ces autres chercheurs, de ces collègues français, étrangers, d'évoluer vraiment, c'est le moins que je puisse dire, dans ma réflexion sur ce genre-là. Vu de la France, on a l'impression que c'est un tout petit genre comme un autre, alors qu'en réalité, à mon sens, la comédie musicale, et à notre sens aussi, c'est un champ de recherche, véritablement, et qui est assez gigantesque, vu la place prise par ce domaine, comme on le disait tout à l'heure, dans la culture américaine. Et donc, c'est un projet de recherche, en quelques mots, qui a donné lieu à des... pas exactement à des colloques, mais plutôt à des ateliers en fait, de recherche collaboratifs, et à des projets de livres également, donc à deux livres, donc les deux livres que j'ai co-dirigés, ainsi qu'à une base de données collaborative, mais qui pour l'instant n'est que dans sa phase de préfiguration, mais qui va aboutir très prochainement.
A contrario de la musicologie, par contre, vous avez une expérience en tant que réalisateur, donc est-ce que ça aussi, ça peut modifier un peu vos perspectives ?
Alors, j'ai une expérience en tant que réalisateur, mais en tant que réalisateur de documentaires. Donc, j'ai essentiellement réalisé des documentaires sur le cinéma, qui sont pour moi une sorte de prolongement de mon activité critique. C'est-à-dire, j'utilise un peu les mêmes instruments théoriques lorsque je réalise un documentaire que lorsque je rédige une critique ou lorsque je fais un cours à des étudiants sur le cinéma ou lorsque je fais une exposition. Ce sont les modalités d'expression qui diffèrent, mais le contenu, et notamment le contenu analytique ou historique ou esthétique, est le même.
Vous êtes agrégé en lettres modernes et docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, si je ne me trompe pas. Vous ne ressentez pas particulièrement la présence de vos études de lettres modernes quand vous vous intéressez à des œuvres cinématographiques et en particulier à la comédie musicale ?
Bon bah, évidemment que les choses ne sont pas non plus totalement tranchées ou étanches, dans la mesure où, dès qu'il s'agit d'analyser un film, et surtout on est confronté à un récit, on est confronté à des personnages, un traitement de l'espace, du temps, donc autant finalement de catégories et d'éléments que des études de lettres aussi nous habituent à étudier, à analyser, à scruter. Donc en ce sens, voilà, peut-être qu'on peut trouver ce lien.
On avait vu aussi, du coup, qu'au cours de votre parcours, vous aviez fait des études de philosophie.
Ouais.
Est-ce que vous pensez, du coup, que celles-ci, elles ont influencé votre regard sur les comédies musicales et de quelle manière, si c'est le cas ?
Oui, sans doute, c'est difficile à dire parce que, voilà, j'ai la philo, maintenant, j'en fais plus trop, ça m'arrive d'en lire un petit peu, mais je l'ai un peu quand même laissé de côté. Mais en partie, oui. D'ailleurs, j'ai fait lorsque j'étais en master, de philo, un mémoire sur un philosophe qui s'appelle Stanley Cavell qui parlait de cinéma, en fait. J'ai fait un mémoire sur la philosophie du cinéma et donc sur son regard sur les films et notamment sur les films américains des années 40, 50, etc. Et ça m'a donné l'occasion dans mon mémoire d'évoquer notamment, j'ai évoqué le film Tous en scène avec Fred Astaire et Sid Charisse. Voilà, sur un point de vue philosophique, la manière dont le monde est représenté, c'était sur un numéro en particulier où Fred Astaire se fait cirer ses chaussures et la manière dont il répand un peu la joie tout autour de lui quand il se met à chanter. Et donc voilà, en tout cas, ce philosophe-là avait ce regard-là et je pense que, de manière générale, sans doute que ça me reste un peu, même si je saurais pas dire précisément sur quel élément en particulier j'applique, entre guillemets, la philosophie à la comédie musicale, mais sans doute que oui, il me reste quelque chose. L'écran pop, c'est des projections de films musicaux en version donc, cinéma karaoké, donc où les paroles des chansons sont projetées sur l'écran et du coup les gens sont encouragés à chanter les chansons. Et aussi on leur donne des petits accessoires, etc. Pour qu'ils puissent, voilà, des ballons, des rubans, etc. Pour qu'ils puissent interagir un peu avec le film. J'ai participé justement à ce projet-là en écrivant, en fait, j'ai écrit les premières parties. Avant que le film commence, il y a un comédien qui vient sur scène pour chauffer un peu le public, et puis qui fait des petits jeux, et qui fait des quiz, qui raconte des blagues, etc. Donc moi, j'ai, en tout cas pour les premiers films de l'écran pop, c'est-à-dire pour Mamma Mia, pour Grease et pour Les Demoiselles de Rochefort, j'ai écrit cette petite partie-là, parce que justement, comme on disait pour Ricky Horror Show, j'aime bien ce côté-là. C'est-à-dire ce côté, la capacité du public à interagir avec un film, à chanter tous ensemble, à s'enthousiasmer, etc. C'est...
Je me permets aussi de vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez fait votre thèse sur Clint Eastwood, sur la question de la transmission chez Clint Eastwood, même si on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Et bien que l'œuvre de Clint Eastwood soit extrêmement riche et variée, elle ne s'inscrit pas tout à fait non plus dans la comédie musicale. Comment est-ce que vous, dans votre parcours, vous avez quand même réussi à avoir ce lien-là et à avoir cette diversité d'approches?
Moi, je ne dirais pas que je suis spécialiste de la comédie musicale. Je trouve que depuis 4-5 ans, j'ai été impliqué dans des projets collectifs autour de la comédie musicale. Projets qui m'ont passionné, que j'ai été heureux de mener à bien. Mais je me vois plutôt comme étant en effet spécialiste du cinéma hollywoodien. Surtout classique et des séries aussi télévisées aujourd'hui. Après, le lien entre Clint Eastwood et la comédie musicale, donc il n'y en a aucun, si ce n'est que Clint Eastwood a en effet joué dans une comédie musicale, mais qu'il vaut mieux oublier. En termes d'approche, si vous voulez, le lien, il s'effectue autour des méthodes. C'est-à-dire que une des approches qui m'intéresse, pour le cinéma hollywoodien, c'est ce qu'on appelle les star studies, c'est-à-dire un type d'approche qui s'intéresse spécifiquement au rôle économique, symbolique, etc., des acteurs, et notamment de ces acteurs spécifiques qui sont les stars. Donc, Clint Eastwood, voilà, et aussi, plus récemment, les acteurs et les actrices de comédie musicale. Voilà.
Quelle est la comédie musicale que vous avez le plus regardée, le plus écoutée, même juste écouter les chansons ou...
Alors, plus regardée, je pense que c'est celle que j'ai citée, hein, Chantons sous la pluie, Un jour à New York, Demoiselle de Rochefort, ouais, c'est historique, ouais. Ça va être dans mon top. Après, il y a celle que j'ai vue quand j'étais petite, donc je pense que tout le monde est un peu pareil, quand on est petit, on revoit les mêmes films en boucle souvent. Alors là, il y avait Peau d'âne de Jacques Demy. Que j'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais petite, avec mon frère, on l'a regardé. Et puis aussi quand j'étais petite, La Mélodie du Bonheur, donc The Sound of Music, cette comédie musicale avec Julie Andrews, qui joue une nonne qui sort du couvent pour aller s'occuper de 7 enfants, voilà, dans une famille bourgeoise en Autriche, et qui va bien sûr tomber amoureuse du père des enfants. Et voilà, mais ça se passe pendant la guerre de 40, donc il y a toute une histoire où ils doivent fuir l'Autriche, qui vient d'être envahie par les nazis. Voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup vu. Et sinon, écouter, pour ce qui est d'écouter, c'est plus souvent des comédies musicales scéniques que j'écoute, donc des enregistrements de Broadway ou de Londres. Et notamment, je pense aux Misérables, dont j'aime pas beaucoup le film, l'adaptation de 2012, mais par contre j'adore la comédie musicale, je l'ai vue sur scène à Londres, et puis surtout je l'ai énormément écoutée. Voilà, c'est donc une adaptation du livre de Victor Hugo, qui est une comédie musicale française à l'origine, ça a été créé en 80 à Paris, et ça a été adapté ensuite en anglais, en 85 à Londres, puis ensuite à Broadway. Et voilà, c'est une comédie musicale épique, les chansons sont hyper entraînantes et mélancoliques, et voilà, il y a un côté grandiloquent de la musique, mais qui passe très bien quand on écoute ça. Voilà, c'est une de mes comédies musicales chouchou.
De nouveau, nous remercions très chaleureusement nos invités Anne Tébine, Anna Marmiès et Pierre-Olivier Toulza, ainsi que les enseignantes qui ont porté le festival transversal pour cette édition, Marianne Di Benedetto et Gaëlle Debeau. Merci encore une fois aux étudiantes bénévoles, Isabelle Blau, Candice Charon, Philippine Cochereau, Axel Rose-Després, Jeanne Launay, Emma Pelletier et Lauriane Perrin, pour toute leur implication. Une pensée réitérée pour Maëla Jacquinet qui a organisé cet événement avec moi. Enfin, merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le festival transversal, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le carnet hypothèse de l'événement, le lien sera en barre d'infos.